RFI, grand reportage.
Charlotte Hydrac.
Bonjour. En Afghanistan, la France est le seul pays à disposer d'une équipe permanente d'archéologues, la DAFA, c'est-à-dire la délégation archéologique française. Une institution qui a ouvert ses portes dans les années 20, il y a près de 100 ans. Dictée par l'urgence, le travail de terrain de ces archéologues subit bien évidemment les contraintes de l'évolution sécuritaire à travers le pays. Que les sites prospectés soient islamiques, bouddhistes ou datant de l'Antiquité grecque, les missions de fouilles y sont courtes, seulement quelques jours, raréfiés et prennent place dans les seules zones d'Afghanistan jugées suffisamment sûres. Et lors de chacune de ces missions, les archéologues sont conscients qu'ils ne pourront peut-être jamais revenir. Leur objectif, travailler vite et collecter un maximum d'informations sur place, quitte à les analyser plus tard. En fin d'année, l'équipe de la DAFA s'est ainsi rendue à Herat, près de la frontière iranienne, sur le site d'un vaste ensemble architectural médiéval où seule une poignée de minarets est encore debout, témoigne de la grandeur et de l'éclat du passé. Afghanistan, les archéologues dans les ruines d'un pays en guerre. Grand reportage, signé Joël Brunner.
Ça aurait pu commencer comme ça, dans le martèlement des pioches et le grattement des truelles. Avec une équipe d'archéologues creusant la terre en quête des vestiges du Mosalla, un ancien site islamique majestueux du 15e siècle, au cœur de la grande ville d'Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Mais c'est plutôt dans le vrombissement des moteurs que tout démarre vraiment, car le site est loin aujourd'hui d'un musée à ciel ouvert. Une route fréquentée le traverse, une rivière y passe, un terrain de foot rudimentaire y a été dressé, et des amas de détritus s'y entassent. Des déchets que broutent les chèvres de passage quand ils ne sont pas triés puis revendus par les nombreux squatteurs aussi présents sur place pour se payer l'héroïne à laquelle ils sont accros. Et c'est donc à deux pas de là que les membres de la DAFA, la délégation archéologique française en Afghanistan, creusent des sondages souterrains pour s'assurer des limites du site enseveli. Cela fait trois jours que Zia, étudiant en cours de formation à la DAFA, recherche les fondations que le sol a englouties.
Ici, je voudrais trouver la base du mur de la Mosalla. J'ai trouvé des sables et des terres plus dures. Peut-être que je vais descendre un peu pour trouver la base de mort. Quand je vais trouver la base de mort, je vais faire une fête. Oui.
Quelques raclements de terre plus tard, Zia est rejoint par Julio Mendezu Sarmiento, le directeur de la DAFA.
Je pense que t'as un mur, là.
Ça s'enlève tout seul, regarde. Tu vois le sable, regarde. T'as de la brique. Regarde. Tu vois ça? Comme on a vu, tu renettoies tout ça. De toute apparence, c'est un mur, oui. D'autant plus que tu vois cette humidité là qui ressort. Tu vois la différence entre ce sable et ce sol beaucoup plus dur, beaucoup plus compact. Toutes ces choses-là, c'est de la brique. Tu vois ces lignes blanchâtres, ça correspond à cette espèce d'humidité qui se colle, tu vois, à la paroi de la brique. Et tu vois la différence en plus. Tu la vois là? Regarde. Voilà, ton mur là.
Merci.
Alors qu'il vient de trouver le sommet de ce mur qui l'obsédait, Zia peut à présent, tout en continuant à creuser, retourner à ses rêves de fête. De son côté, c'est un autre travail d'imagination auquel se livre le directeur de la DAFA face aux minarets géants qui surplombent le site. Des sortes d'immenses piliers ronds qui, à distance, peuvent rappeler les cheminées de briques du nord de la France.
Là, tu peux voir actuellement ces quatre minarets magnifiques qui sont encore debout. Il faut imaginer ces quatre minarets avec des structures magnifiques, tout aussi magnifiques en fait, les entourant. Il faut imaginer donc le mausolée d'en face avec ces minarets aussi, qui sont aussi tombés en fait. Donc actuellement, on voit debout cinq minarets entiers, mais il y avait une dizaine en fait, et la plupart sont aujourd'hui tombés.
Entendre les murmures du passé dans le vacarme du présent n'est pas forcément chose facile pour qui n'a pas l'oreille archéologique. À l'origine, pourtant, deux grands complexes architecturaux se dressaient ici, à Herat, réunissant deux madrassas, un mausolée, une mosquée, ainsi qu'un vaste jardin. Et si les archéologues sont à pied d'œuvre ces jours-ci, c'est que l'UNESCO souhaite bâtir un nouveau mur d'enceinte pour que le site soit mieux préservé. En attendant, ils doivent s'assurer que cette nouvelle fondation ne vienne pas prendre place au-dessus des vestiges eux-mêmes. Anand Kanetkar, lui, travaille pour l'UNESCO. Et s'il est aujourd'hui aux côtés de la DAFA, ce n'est pas seulement parce que la vieille ville d'Herat pourrait à terme intégrer le patrimoine mondial de l'organisation, mais aussi pragmatiquement parce que les risques sécuritaires y sont moindres. Un point évidemment primordial en Afghanistan.
L'UNESCO a travaillé beaucoup sur Bamiyan et Herat parce que c'est aussi un peu sécurisé ici, travailler, parce qu'on a, des contraintes à aller dans les endroits où on ne peut pas travailler. C'est nécessaire pour nous d'avoir un endroit où on peut travailler tranquillement, et Herat et Bamiyan sont des deux endroits où on travaille tranquillement, nous-mêmes avec les experts. Et c'est pourquoi Herat, ça fait presque 11 ans qu'on travaille ici.
Les conditions de sécurité extérieure sont donc jugées suffisantes pour de courtes missions à Herat. Mais dans un pays qui connaît la guerre depuis près de 35 ans, d'autres risques subsistent néanmoins pour les archéologues. En effet, le sous-sol du site du Mossala ne renferme pas que de somptueux trésors, comme l'explique le représentant de Halo Trust, organisation spécialisée dans le déminage.
Ici, sur ce site du Mossala, nous nous trouvons sur ce qui fut dans les années 80 une ligne de front entre les Russes et les Moudjahidines. Depuis cette époque, des mines antipersonnelles sont enterrées ici, à proximité des minarets, et il y a 3 mois, un accident s'est produit près du mur que vous voyez là-bas. Un jeune homme de 20 ans a marché sur une de ces mines alors qu'il jouait au foot au pied des minarets et il a perdu une jambe. C'est pour ça que nous travaillons actuellement en lien étroit avec les archéologues et que nous examinons et déminons la zone pour eux, même si jusqu'à présent nous n'avons pas trouvé d'autres mines.
Quoi qu'il en soit, la sécurité demeure précaire en Afghanistan. Le moindre incident sur un chantier et les fouilles pourraient s'interrompre. Par ailleurs, le travail des archéologues pourrait également se retrouver compromis, à l'avenir, par la possible dégradation des conditions de sécurité dans le pays. Sur le terrain, il s'agit donc d'être efficace. Ce drôle de bruit, c'est celui d'un bâton surmonté d'une sorte de soucoupe qui communique avec l'espace et que Thomas Lorrain tient dans les mains. Un engin justement là pour faire gagner du temps et faciliter les futurs croquis du chantier en donnant instantanément, grâce aux satellites, l'altitude GPS d'un point donné. En attendant, alors que le vent se lève, il donne aussi au secrétaire scientifique de la DAFA des faux airs de géotrouve-tout de l'archéologie.
On vient d'acquérir un GPS différentiel. Donc c'est un appareil pour faire de la topographie. Traditionnellement, on utilisait une station totale donc qui nécessitait 2 personnes pour travailler. Il fallait calculer des angles, etc. Et donc là, avec cette machine, l'avantage, c'est qu'on travaille 2 fois plus vite, voire même 3 ou 4 fois plus vite.
Rapide démonstration de cet instrument futuriste autour du sondage de Zia, qui n'en est toujours pas à faire la fête, mais à noter attentivement les coordonnées correspondant à la topographie de son périmètre de recherche.
De l'altitude, t'es à 912 mètres. Voilà, ça c'est l'altitude de ton trou. Donc après, tu peux calculer toutes tes profondeurs avec ça.
Pas de temps à perdre. Thomas Lorrain part immédiatement en direction d'un autre sondage, emmagasiner davantage de coordonnées.
La grande chose qui change en Afghanistan, c'est qu'on vient fouiller, on n'est pas sûr de revenir fouiller. C'est-à-dire qu'à chaque mission qu'on fait, on ne sait pas si on reviendra. Donc tout ce qu'on fait, on le fait dans la perspective dans laquelle on ne reviendra jamais. Donc on enregistre absolument tout ce qu'on peut et on garde toutes les informations possibles et imaginables.
Direction à présent la citadelle de la ville, où ont été rassemblés de nombreux fragments de mosaïques, trouvés un peu partout sur le site du Mossala. Il s'agit maintenant de les répertorier. Chaque pièce est photographiée et non pas dessinée comme c'est l'usage, pour gagner en efficacité là encore. Spécialiste des arts de l'islam au CNRS, Sandra Aube accompagne l'équipe de la DAFA durant leurs quelques jours de mission à Herat.
Si on travaillait sur du matériel qui était dans des réserves, je sais pas, sur un musée français par exemple, on prendrait plus le temps de s'arrêter plus longuement sur chacune des pièces. La grande différence ici, c'est qu'on est là pour peu de temps. Là, sur cette mission, on est là en somme pour 10 jours, même pas. Et il y a beaucoup de pièces à enregistrer, de matériel à étudier. Donc l'enjeu quand même, c'est d'aller vite, puisqu'on ne sait pas si on pourra revenir ou pas sur le site, continuer le travail. Donc il ne s'agit pas de se dire, bon bah on est là pour 10 jours et dans 3 mois, je reviens continuer, quoi. Il faut vraiment avoir terminé. Là, l'enjeu, c'est déjà d'enregistrer tout ce matériel, de l'enregistrer le mieux possible de manière à récupérer vraiment toute une base de travail pour ensuite pouvoir l'exploiter de retour en France.
La délégation archéologique française a ouvert ses portes en Afghanistan en 1922, grâce à l'action d'un certain Alfred Fouché, éminent archéologue de l'époque. Pour la petite histoire, le premier ambassadeur de France, un autre Fouché prénommé Maurice, n'arrive lui en Afghanistan que l'année suivante. dans les rapports entre la France et l'Afghanistan, les archéologues ont donc précédé les diplomates. Il demeure d'ailleurs aujourd'hui une dimension éminemment politique dans cette institution française qu'est la DAFA, très proche en particulier du ministère de la Culture afghan, d'autant qu'elle est la seule mission archéologique permanente basée en Afghanistan. Jean-Michel Marlot est l'ambassadeur de France à Kaboul.
Retrouver le passé de l'Afghanistan, c'est aussi une façon de montrer au reste du monde que l'Afghanistan, ce ne sont pas seulement les images négatives qu'on voit tous les jours dans les actualités, c'est aussi un pays qui a un très riche passé et fait d'influences multiples. Une des façons de lutter contre l'extrémisme, c'est aussi de faire redécouvrir aux Afghans que leur univers n'a pas commencé avec l'avènement de l'islam et qu'il y a eu avant bien d'autres civilisations qui se sont retrouvées en Afghanistan.
Les traces du passage d'Alexandre le Grand en Afghanistan ou les vestiges du bouddhisme viendront en effet s'ajouter à l'architecture islamique au sein de la carte archéologique sur laquelle planche actuellement la DAFA. Une carte qui sera en réalité davantage une base de données censée compiler l'ensemble des connaissances scientifiques concernant le patrimoine afghan. Ce travail a été confié à la DAFA par le président Ashraf Ghani qui nourrit l'ambition que les Afghans se réapproprient leur propre culture.
La DAFA fait un très gros effort aujourd'hui pour mieux publier les résultats de tout ce qu'elle avait fait, parce que c'est très gentil de fouiller, mais encore faut-il porter à la connaissance du public les résultats des fouilles, essayer d'interpréter ce qu'on a trouvé. Et il y a donc encore beaucoup, beaucoup de travail, y compris dans la bibliothèque, dans les ateliers, dans les bureaux de la DAFA.
Nous voici donc dans les bureaux de la DAFA à Kaboul, pour voir tout ce travail à l'œuvre. En particulier celui des jeunes Afghans, 5 en tout, qui poursuivent leur formation professionnelle à la DAFA. Dans la bibliothèque, nous retrouvons Bachir, qui était aussi du voyage à Herat. Lorsqu'il n'est pas sur le terrain, ce jeune homme sérieux aux allures de premier de la classe répertorie depuis un an les ouvrages présents et traduit leurs titres en persan.
Dans la bibliothèque, il y a plus de 10 000 livres. Mon travail à la bibliothèque, c'est l'inventaire de la bibliothèque que je veux faire. Surtout en fait l'enregistrement de nouveaux bouquins ou de nouveaux livres qu'on va acheter. Donc dans un an, j'ai fait l'inventaire de 3 000 livres. Donc il me reste encore 7 000 livres à enregistrer.
En attendant que Bachir ne parvienne au bout de sa tâche, les ouvrages répertoriés, jugés les plus importants, sont ensuite numérisés. Une tâche qui incombe cette fois à Amine, qui face à son ordinateur se félicite que d'autres étudiants, comme lui, puissent plus tard y avoir accès.
C'est pour la bibliothèque digitale qu'on fait pour la DAFA et peut-être pour les d'autres universités de Balkh, Bamiyan, Herat, Kaboul, qui a besoin de bibliothèque digitale. Sur l'archéologie, sur l'histoire qu'on a.
Dans un autre bureau, caché lui aussi derrière un ordinateur, où il dessine à la souris les croquis de ses fouilles à Herat, revoici Zia, qui a eu le temps de se reposer depuis son éprouvant sondage au soleil. Plus du tout la tête à la fête, il explique au contraire à un brin philosophe l'importance de sa discipline.
Je pense que l'archéologie, c'est la mère de l'histoire. Si on ne connaît pas l'archéologie, on ne connaît pas jamais l'histoire. Pour chaque pays, c'est très essentiel d'avoir des spécialistes sur l'archéologie, sur l'histoire de l'art. Si on part en Europe, aux États-Unis, il n'y a rien, personne pour rester en Afghanistan.
Former une partie de cette relève afghane, peu nombreuse et sous-qualifiée, c'est donc une autre des missions actuelles de la DAFA. Une nécessité pour le pays qui en a grandement besoin, selon Nader Rasouli, conseiller scientifique à la DAFA depuis 3 ans.
Sur l'archéologie, pour les Afghans, il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Encore, ils ont besoin de spécialistes étrangers pour la restauration et pour les fouilles et recherches. Bien sûr, ils ont besoin d'aide d'étrangers.
C'est important de former des Afghans et pas simplement d'avoir des étrangers qui viennent pour travailler comme archéologues ici?
Nous sommes besoin des archéologues étrangers qui viennent, mais maintenant, ça va mieux quand il y a des étudiants afghans qui travaillent à DAFA. Il y a des expériences de travail parce qu'ils ont participé aussi dans toutes les prospections et les petits fouilles que maintenant on Herat.
Mais à quoi sert précisément tout le travail effectué actuellement par ces jeunes Afghans dans les locaux de la DAFA? Et bien notamment à mettre en place cette future base de données voulue par le président Ghani. Thomas Lorrain.
Alors tout le travail qu'on fait ici est lié d'une façon ou d'une autre à la carte archéologique, donc que ce soit les dessins qui finiront un jour ou l'autre dans la base de données sur le site d'Erat, quand on cliquera Erat, on verra apparaître les dessins, les relevés qui ont été réalisés, et pour la bibliographie c'est exactement la même chose puisqu'on espère pouvoir mettre en connexion la carte archéologique avec tous ces ouvrages numérisés s'ils sont numérisés. Donc finalement tout ce qu'on fait ici à un moment ou à un autre aboutira dans la carte archéologique.
Cette carte archéologique, synthèse des connaissances scientifiques sur le patrimoine afghan, représentera probablement plusieurs années de travail. Un travail de compilation qui pourrait d'ailleurs se poursuivre à distance si jamais, dans le pire des scénarios et face à la dégradation de la situation sécuritaire, la DAFA ne pouvait plus continuer ses missions sur le terrain. Voir si la délégation archéologique française devait à nouveau fermer provisoirement ses portes, comme ça a été le cas à deux reprises au cours de son histoire. Car la carte est intimement liée au territoire. Un territoire depuis près de 35 ans, encore et toujours en guerre. Afghanistan, les archéologues dans les ruines d'un pays en guerre, un grand reportage de Joël Bronner, réalisation Eva Moshinsky.
Bonjour Joël Bronner.
Bonjour Charlotte.
Vous évoquez dans votre reportage les conditions de sécurité précaires en Afghanistan. Est-ce que vous pouvez revenir sur la manière dont les archéologues y sont confrontés dans leur travail quotidien ?
Concernant le quotidien, comme beaucoup d'étrangers en Afghanistan, les archéologues de la DAFA vivent et travaillent à Kaboul dans ce qu'on appelle un compound, c'est-à-dire une enceinte fortifiée et sécurisée, et tous leurs déplacements s'effectuent en voiture blindée. Sur le terrain, il est toujours envisageable pour eux de partir si besoin sur une courte mission de fouille dans des zones jugées suffisamment stables ou sécurisées. C'est le cas notamment concernant les vestiges gréco-bactriens à Balkh dans le nord du pays, ou concernant les ruines islamiques et bouddhistes de Bamiyan au centre, ou encore sur le site de Messenac près de Kaboul. Ou évidemment dans le secteur d'Erat à l'ouest, comme on l'a vu dans le reportage. Et il paraît en revanche peu concevable qu'une équipe d'archéologues, surtout étrangers, puissent se rendre à l'heure actuelle, même s'ils le souhaitaient, sur des sites antiques présents dans la région du Helmand, par exemple, au sud du pays, ou de Razni, au sud de Kaboul, en raison des affrontements réguliers et de la mainmise de l'insurrection talibane sur des pans entiers de ces secteurs. Sachant que par ailleurs, l'absence de réel contrôle gouvernemental sur ces zones peut aussi favoriser le risque de pillage de ces sites archéologiques.
Alors pour revenir au reportage, comment s'est passée la cohabitation sur le terrain à Herat entre les archéologues et les démineurs ? Ça a été facile pour eux de travailler ensemble ?
J'ai pu assister notamment à une réunion et quelques discussions sur le terrain entre les archéologues et les démineurs à Herat. Et ce qui était amusant, c'était de pouvoir observer la rencontre de deux mondes que tout sépare. Il y avait, disons, deux approches radicalement différentes vis-à-vis de la gestion du site. Si je caricature, les archéologues envisageaient de leur côté de travailler à la petite cuillère pour déblayer soigneusement les lieux, ne pas endommager potentiellement les ruines du complexe médiéval qui est aujourd'hui sous terre, alors que les démineurs, eux, proposaient dans un premier temps des solutions plus proches de celles du bulldozer, avec des sortes de grosses moissonneuses-batteuses pour sécuriser les lieux et déterrer les explosifs potentiels. Au bout du compte, ils sont tout de même parvenus à un terrain d'entente, et tant mieux puisque le gouvernement afghan, dans un monde idéal, souhaiterait à terme créer un parc archéologique sur ce site du Mosalla à Herat. Donc dans cette optique, le site doit à la fois être préservé et ne pas présenter évidemment de risque d'accident pour le public.
Alors on voit que la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader en Afghanistan. Du coup, quelle peut être selon vous la pérennité de l'action de cette équipe d'archéologues ?
À l'heure actuelle, face à la progression de l'insurrection à travers le pays, l'avenir de n'importe quelle organisation ou institution présente en Afghanistan semble objectivement pouvoir être menacé à terme. Donc tout ce qui concerne la pérennité des actions entreprises est sujet à caution. Et les archéologues eux-mêmes en sont bien conscients puisqu'ils n'ont jamais la certitude de pouvoir revenir sur le terrain. Donc aujourd'hui, faire progresser la base de données scientifiques concernant le patrimoine afghan, sur lequel la DAFA dispose d'une large documentation, sachant que ce travail pourrait, si nécessaire, se poursuivre à l'extérieur du pays, tout en poursuivant la formation de jeunes archéologues afghans, même s'ils ne sont qu'une poignée, semble de leur point de vue une manière cohérente de préparer l'avenir, par ailleurs plus qu'incertain, qui se dessine en Afghanistan.
Les archéologues dans les ruines d'un pays en guerre, votre grand reportage Joël Bronner en Afghanistan est à retrouver, à réécouter sur RFI.fr.
Il disait, si votre photo n'est pas bonne,